Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une enquête sur un sujet qui sera sans doute au cœur de la prochaine présidentielle. Il s'agit de la dette qui plombe les comptes de l'État et qui pousse la plupart des hommes politiques à vouloir réduire les dépenses publiques. Mais qui est responsable de cette dette? Qui la détient? Nous menace-t-elle vraiment? Nous allons voir ça avec vous, Benoît Colomba. Bonjour.
Bonjour, Jacques.
Et puis nous recevrons Célia de la Varenne. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes en duplex de New York. Vous avez participé à 7 missions pour le compte de l'ONU. Et vous affirmez que chaque semaine, dans le monde, des casques bleus se livrent à des abus sexuels sur des enfants. On en parle donc dans quelques instants.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
La France vit au-dessus de ses moyens.
Il est absolument capital et essentiel que nous engagions un processus de diminution d'une dette qui est une sorte de cancer.
La dette publique, c'est l'ennemi de la gauche.
La vérité, c'est que moi, je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier.
Voilà, vous avez entendu successivement Raymond Barre, Jacques Chirac, François Hollande et François Fillon. Un petit florilège qui montre bien, finalement, qu'à gauche comme à droite, depuis 40 ans, on entend toujours le même discours sur la dette publique. Alors nous avons décidé, à Secret d'Info, d'essayer de voir ce qu'il en est vraiment. Et déjà, pour commencer, on va camper le décor, hein, préciser les choses. On évoque souvent le déficit des comptes publics, mais la dette, Benoît Colomba, c'est autre chose.
Oui, alors le déficit, c'est quand les dépenses du budget de l'État sont plus importantes que les recettes. Ce budget, on l'établit chaque année, c'est un flux. Tandis que la dette, c'est l'accumulation des emprunts souscrits pour financer ce déficit. C'est un stock.
Un stock qui grossit donc peu à peu. C'est un peu comme si on construisait en fait une montagne à coups de pelletée, non pas de terre, mais de déficit. Maintenant, pour rentrer dans le détail, cette montagne, Benoît, elle est constituée de quoi?
Grosso modo, on peut la découper en quatre morceaux. Le gros morceau, c'est la dette de l'État, proprement dite, 1700 milliards d'euros. Ça représente 80% de la dette publique globale. Alors, il faut y ajouter la dette de la sécurité sociale, celle des collectivités locales, et puis la dette des administrations centrales, c'est-à-dire les organismes comme le Commissariat à l'énergie atomique ou Météo France. Au total, donc, la dette publique s'élève à 2100 milliards d'euros, c'est-à-dire 98% du PIB de la richesse nationale.
Oui, alors c'est vrai que dit comme ça, ça fait quand même un peu peur. Mais on va essayer de voir ce qui se cache derrière ce constat. D'abord, est-ce qu'on est les seuls à être autant endettés?
Pas du tout. Le taux d'endettement de la France se situe dans la moyenne européenne, 91% du PIB dans la zone euro. Aux États-Unis, la dette dépasse les 100% du PIB et elle s'élève même à 250% au Japon.
Oui, on n'est pas les plus endettés. Bon, c'est pas rassurant pour autant. 2000 milliards d'euros, ça fait tout de même une sacrée ardoise, et c'est pas risqué d'ailleurs de devoir autant d'argent.
Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question quand on entend par exemple le ministre des Finances, Michel Sapin.
Quand on finance cette dépense publique uniquement par de l'endettement, il y a un moment donné où ça s'arrête, ça se casse. Les gens vous font plus confiance, ils vous prêtent plus d'argent, ou vous le prêtent tellement cher que c'est plus possible. C'est comme dans un ménage, si c'est vous payez trop cher d'intérêt, ben vous achetez pas votre logement.
Ouais, si on paye trop d'intérêt, on n'achète pas notre logement. Bon, on le comprend, hein, ça c'est évident, c'est vrai pour un ménage. Mais un État, est-ce que ça fonctionne vraiment comme ça, Benoît?
En fait, la comparaison n'est pas très juste. Contrairement à un ménage ou à une entreprise, l'État, lui, peut agir sur les recettes, il peut lever l'impôt, bref, trouver de l'argent s'il en a besoin. Il n'est donc pas du tout dans la même situation qu'un ménage, explique l'économiste Bruno Tinel, auteur du livre « Dette publique, sortir du catastrophisme ».
Un ménage, ça dure pas plus longtemps que les gens qui y habitent dedans. Une entreprise, c'est pareil. Parce que quand une entreprise fait faillite, elle disparaît ensuite. Donc l'État, non, ne disparaît pas pour qu'on rembourse ses créanciers. L'État, il peut faire défaut sur sa dette. L'État, il peut avoir des difficultés à rembourser sa dette. Ça crée tout un certain nombre d'autres problèmes spécifiques, mais il ne fait pas faillite en tant que tel. Ça n'arrive pas.
Ah oui, alors il ne fait pas faillite, mais il peut faire défaut, hein, c'est ce que j'entends, c'est-à-dire en fait effacer une partie de sa dette. C'est déjà arrivé ça?
Alors bien sûr, il y a beaucoup d'exemples, même si à chaque fois évidemment les situations sont très différentes. On peut citer l'Allemagne en 1953 ou plus récemment l'Islande en 2011 ou l'Irlande en 2013.
Donc c'est bien arrivé. Maintenant le discours ambiant dans la classe politique en France ici, hein, c'est plutôt de dire au contraire qu'il faut la rembourser la dette, sinon on va mettre en danger les générations qui vont nous succéder.
Oui, c'est un discours assez culpabilisant, mais c'est une façon incomplète de présenter les choses. D'abord parce que les titres de dette sont remboursables en moyenne sur 7 ans. Et ensuite parce que si la dette représente un passif, l'État dispose également d'un patrimoine de richesse et donc d'un actif de plusieurs milliards d'euros. Et au total, si vraiment on veut jouer à ce petit jeu comptable, eh bien la balance est largement favorable, nous dit Bruno Tinel.
Si on fait la somme totale des actifs moins la somme totale des dettes, eh bien en réalité la situation nette de l'État et des administrations publiques est positive. Autrement dit, la somme totale des actifs que possède l'État, soit sous forme financière, soit sous forme non financière, c'est-à-dire sous forme d'infrastructures publiques, les ponts, les bâtiments, etc. Eh bien tout cela a une valeur qui globalement est supérieure à la valeur de la dette. Et si on rapporte tout ça au nombre d'habitants en France, ça revient à dire que chaque habitant en réalité est plutôt riche par ses administrations publiques de 10 ou peut-être 15 000 euros selon les manières dont on calcule de patrimoine public.
On peut le voir comme ça, c'est vrai. On peut aussi se dire que vendre nos ponts et nos bâtiments, donc les privatiser, hein, ce serait ça pour rembourser la dette, bah, ce serait aussi appauvrir l'État et les services publics, bien que finalement, si on y regarde d'un peu plus près, bah, c'est un peu ce qu'on fait depuis une dizaine d'années.
Et c'est vrai, on l'a vu par exemple avec la privatisation des autoroutes par Dominique de Villepin en 2006, au nom du désendettement, mais finalement au détriment hein, des intérêts de l'État. Il y a un exemple emblématique de cette vision des choses, c'est le rapport publié en 2005 par le président de la banque BNP Paribas, Michel Pébrot, un rapport commandé par le ministre de l'économie de l'époque, Thierry Breton. Écoutez cet extrait d'un journal télévisé.
Vérité sur la dette, acte 2. Thierry Breton avait déjà prévenu, la France vit au-dessus de ses moyens. Aujourd'hui, il enfonce le clou avec un rapport explosif remis par un grand patron français.
On a recruté plus de 300 000 fonctionnaires supplémentaires, alors que la plupart des autres pays s'efforçaient, dans le même temps, de redimensionner leurs administrations.
Thierry Breton vient en tout cas de lancer le débat. Le Premier ministre devra trancher.
Et ce débat, il est toujours d'actualité, Benoît, puisqu'on l'a encore vu avec les primaires de la droite et du centre. Le désaccord entre François Fillon et Alain Juppé portait entre autres sur le nombre de fonctionnaires qu'il faudrait supprimer. Alors justement, Benoît, puisqu'on y est, bah, examinons ça d'un peu plus près. Est-ce que ce sont vraiment les dépenses publiques qui ont fait exploser la dette ?
Eh bien en fait, non. Depuis 30 ans, les dépenses de l'État sont restées globalement stables. Elles ont même plutôt baissé, hein, selon le responsable du département des comptes nationaux à l'INSEE, Ronan Mailleux.
Sur une trentaine d'années, exprimées en proportion du produit intérieur brut, les dépenses de l'État ont plutôt diminué. Elles ont baissé d'environ 3 points de PIB. On était à peu près à 25% du produit intérieur brut il y a 30 ans, on est plutôt à 22% aujourd'hui.
Bon mais attendez, si les dépenses de l'État n'ont pas augmenté, comment se fait-il alors qu'on se retrouve avec une dette de près de 2000 milliards ?
Ben, en fait, pour comprendre hein, comment la dette s'est creusée, il ne faut pas regarder vers les dépenses, mais plutôt du côté des recettes. Des recettes fiscales qui ont chuté ces 30 dernières années, ça veut donc dire moins d'impôts dans les caisses de l'État. C'est le constat effectué par un collectif qui a réalisé un audit de la dette publique, collectif dont fait partie Patrick Sorin du syndicat Sud Solidaire à la Banque Populaire Caisse d'Épargne.
On a une diminution de l'ordre de 488 milliards donc ces 30 dernières années parce que l'État s'est volontairement dépouillé d'une certaine partie de ses recettes à travers des cadeaux fiscaux. Par exemple, une diminution du taux d'impôt sur les sociétés. Aujourd'hui, on a un taux d'impôt sur les sociétés qui tourne aux alentours de 30%. Quand il n'y a pas d'échappatoire pour pouvoir payer moins, comme le font les sociétés du CAC 40 qui paient 8% en moyenne, voire pas du tout, en toute légalité. Alors qu'en 85, on avait un taux d'imposition des sociétés qui était de 50%. Here comes the money. Here we go. Money
talk. 50%, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît énorme. Hein. En attendant, ce qu'on entend ici, c'est que donc, la baisse des rentrées fiscales aurait entraîné un manque à gagner de 488 milliards d'euros dans les caisses de l'État, sans parler de l'évasion fiscale qu'on peut encore ajouter à ça.
Bien sûr, pour la France, cette évasion fiscale est évaluée entre 60 et 80 milliards d'euros par an. Ouais, là encore, c'est de l'argent en moins dans les caisses de l'État.
Qui dit moins d'argent, d'ailleurs, Benoît, dans les caisses dit plus de dette publique, sans compter qu'il y a encore d'autres phénomènes qui jouent.
Et alors, l'autre facteur qui fait gonfler la dette, c'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Alors, rien à voir avec les sports d'hiver. L'effet boule de neige, c'est quand les taux d'intérêt de la dette sont supérieurs au taux de croissance, à la richesse d'un pays. Emprunter coûte alors plus cher. Or, dans les années 90, les taux d'intérêt ont flambé. Résultat, eh bien, si on cumule le manque à gagner fiscal dont on vient de parler et cet effet boule de neige, eh bien, on arrive aux 2/3 du montant total de la dette publique.
Et ça n'explique pas encore tout, Benoît, puisqu'il faut rajouter à ça les conséquences de la crise de 2008.
Oui, avec un effet négatif sur la croissance, une baisse des prix et une augmentation du chômage, la dette publique fait mécaniquement un nouveau bond. Elle passe de 60% à plus de 90% du PIB.
Secret d'info sur France Inter.
Alors, on a vu pourquoi la dette publique a augmenté et on va voir maintenant comment, peu à peu, finalement, cette dette a échappé au contrôle de l'État. Et pour comprendre ce qui s'est passé, Benoît, il faut faire un bond dans le passé.
Et oui, parce que jusqu'à la fin des années 70, l'État se trouve en quelque sorte dans la position d'un banquier qui se financerait lui-même. Il agit directement sur la monnaie, sur l'encadrement du crédit. Pour financer ses dépenses, il délivre des bons du trésor, c'est-à-dire des titres que les banques sont obligées d'acheter à un taux d'intérêt décidé par l'État.
Et ce système, il a un nom, c'est ce qu'on appelle le circuit du trésor.
C'est ça, parce que la direction du trésor est le relais direct de cette politique. L'État est alors totalement maître du jeu, décrypte le sociologue Benjamin Lemoine, auteur d'un livre très documenté sur le sujet « L'ordre de la dette ».
Ce circuit fonctionne comme un circuit bouclé. De l'argent sort des tuyaux de l'État par la dépense publique et revient dans ces tuyaux. L'avantage, c'est qu'il y a une sécurité de financement, hein, c'est-à-dire que l'État n'est jamais en manque, en quelque sorte. Il est alimenté sans cesse. L'État règne en souverain sur cet univers bancaire et financier.
Vous voulez placer votre argent avec l'assurance que vous ferez un placement attrayant, un placement sûr. Alors, saisissez l'occasion qui vous est offerte de souscrire le 16 janvier au grand emprunt d'État à 7% avec garantie par référence à l'unité de compte de la Communauté économique européenne. Vous pourrez ainsi souscrire dès mardi 16 janvier à l'emprunt d'État 1973.
L'État est donc le maître du jeu en position de force par rapport aux banques, mais ça ne va pas durer.
Effectivement, le grand basculement s'opère au début des années 80 sous l'influence du modèle anglo-saxon. Progressivement, la dette n'est plus administrée par l'État, elle est placée sur les marchés financiers pour couvrir les besoins de la caisse. Alors, c'était pas seulement un choix économique, hein, c'est aussi un choix politique. Au début des années 80, les socialistes sont au pouvoir, Pierre Bérégovoy succède à Jacques Delors aux finances, et avec leurs conseillers, ils voient les choses différemment, constate le chercheur au CNRS Benjamin Lemoine.
Ils sont totalement convertis à la nécessité technique qu'il faut désormais déréglementer les marchés financiers, commercialiser à échelle internationale la dette française. La dette française, elle devient une marchandise. Et il faut la placer au mieux, la faire connaître. L'idée est bien de développer une industrie de la dette. On passe d'un système où l'État était au-dessus des marchés financiers à un système où l'État est un acteur parmi d'autres de ce système. Et pour obtenir cet argent, eh bien, il faut qu'il donne un certain nombre de gages. Il faut qu'il se soumette à la loi du marché.
Qu'il se soumette à la loi du marché. Les règles du jeu changent donc. Et cette financiarisation de la dette, elle va s'accompagner, Benoît, d'une nouvelle politique économique.
Oui, la priorité devient alors la lutte contre l'inflation, l'augmentation des prix, la défense de l'épargne, avec le maintien d'un franc fort par rapport à la monnaie allemande. On serre la vis, hein, donc, tout en dérégulant les marchés financiers.
Ce qui est un choix, hein. D'ailleurs, il y a des arguments pour, des arguments contre, peu importe. Mais ce qui nous importe, en revanche, ici, c'est que cette politique du franc fort, elle a des conséquences sur la dette publique. Elle va renforcer cet effet boule de neige, hein, que vous évoquiez tout à l'heure.
Oui, elle va avoir des conséquences mécaniques que dénonce l'ancien membre de l'autorité des marchés financiers, Jean-Michel Nolot.
On a voulu montrer nos muscles par rapport à l'Allemagne. C'est-à-dire qu'on a voulu défendre une parité monétaire en montant très fortement les taux d'intérêt. À l'époque, il ne faut pas oublier que les taux d'intérêt sont montés jusqu'à 15% des taux d'intérêt très élevés qui se retrouvent aujourd'hui comptabilisés dans la dette publique. On paye la politique monétaire de l'époque.
Et voilà donc comment on plombe la dette avec des taux d'intérêt, hein, on l'a entendu, qui vont flamber, et ce, pendant plusieurs années.
Secret d'info, Jacques Monin.
Alors maintenant qu'on a vu comment s'est construite la dette, comment de grenouille finalement elle est devenue bœuf, eh bien voyons comment on la place cette dette. En fait, Benoît, on en fait carrément la pub.
Effectivement, la direction du Trésor organise des tournées un peu partout dans le monde auprès des acteurs financiers. Daniel Lebeg était directeur du Trésor dans les années 80. Il raconte comment il s'est transformé en VRP de la dette.
L'objectif, c'est de convaincre des investisseurs internationaux, des fonds de pension, des compagnies d'assurance, des gérants d'actifs financiers, les convaincre de la qualité des titres de dette émis par le Trésor français et de venir y souscrire. C'est à nous de prendre notre canne et notre chapeau et d'aller les voir un par un pour les convaincre. Le marché français de la dette publique est devenu un des plus grands marchés du monde, tout simplement.
Ouais, on entend, on va draguer les investisseurs internationaux, hein. Mais pas seulement. On cherche aussi à la placer, cette dette, chez les particuliers. Et pour ça, il faut convaincre aussi Monsieur Tout-le-Monde.
Oui, pour cela, on organise une campagne de publicité assez stupéfiante. Plusieurs spots télé sont diffusés sur FR3, avec comme personnage principal un certain Paulou Sulidzer,
l'écrivain,
cigare à la bouche, l'homme d'affaires vante les mérites d'une nouvelle gamme de produits de dette émis par l'État. Alors, ces spots ont disparu des archives audiovisuelles, mais le texte a été conservé dans les cartons du ministère des Finances. En voici quelques extraits lus par Philippe Reltien.
Bonjour, je suis Paulou Sulidzer. La révolution du marché financier a commencé. Les placements de pères de famille, ça n'attire plus les Français. Aujourd'hui, ils acceptent de prendre des risques, à condition de pouvoir aussi gagner de l'argent. Pour faire gagner la France, l'État se place dans une logique de marché. Il se soumet aux contraintes de la compétition comme n'importe quelle entreprise. N'oubliez pas, le Trésor se mouille pour vos liquidités.
Oui, c'est assez incroyable, c'est drôle d'ailleurs d'entendre ça aujourd'hui. En attendant, on l'a bien compris, Benoît Colombat, c'est donc une véritable industrie de la dette qui se met en place pour financer l'État, tandis que dans le même temps se met aussi en place toute une nouvelle mécanique, mais au niveau européen cette fois-ci.
Oui, c'est le marché unique européen qui s'accompagne d'une dérégulation bancaire et financière avec de nouvelles règles budgétaires pour les États. Le traité de Maastricht, adopté en 1993, impose aux États de limiter leur déficit annuel à 3% et leur dette publique à 60% du PIB.
Et ces nouvelles contraintes budgétaires, elles vont s'accompagner d'une perte de souveraineté monétaire.
Oui, on met en place une banque centrale européenne indépendante qui n'a pas le droit de prêter de l'argent directement aux États, un mécano approuvé à l'époque par le gouverneur de la Banque de France, Jacques Delarosière.
Si les souverains politiques étaient décidés à faire une union monétaire, il fallait qu'ils passent par une certaine perte de la souveraineté monétaire, proprement dit. Si on voulait faire une union monétaire, il fallait passer par là. Et donc, on a construit le système de cette manière.
On a construit le système de cette manière. Les États ne peuvent plus jouer sur leur monnaie pour financer leurs dettes. Et ce qu'on comprend, Benoît, à travers ces témoignages, c'est qu'il y a de fait un lien entre la financiarisation de la dette et la construction européenne.
Oui, c'est effectivement ce qu'a constaté Benjamin Lemoine lors de ses recherches.
Ces mêmes hauts fonctionnaires du Trésor qui ont mis en marché la dette vont être aussi ceux qui vont penser l'architecture européenne, l'architecture des politiques budgétaires, financières et monétaires. Il y a une logique disciplinaire, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça gratuitement. On considère que se mettre dans les mains des marchés financiers, c'est rechercher la vertu. Parce que ces marchés vont nous sanctionner si on a une politique déraisonnable de relance budgétaire, si en quelque sorte on commet des abus monétaires, on sera discipliné par ce garde-fou des marchés financiers. Il y a une cohérence idéologique dans ces années-là.
Alors, on a vu comment on était passé d'un circuit contrôlé par l'État à un circuit où l'État dépend des marchés financiers. Entrons donc maintenant, Benoît, à l'intérieur même du système pour en comprendre ses rouages très concrets, pour comprendre en fait comment cette dette est gérée au quotidien. En fait, ça se passe dans des bureaux tout simples, c'est au cœur même de Bercy.
Oui, dans les locaux de l'agence France Trésor, c'est le nom de la structure créée en l'an 2000 par le ministre des Finances, Laurent Fabius.
Et cette agence, Benoît, évidemment, on n'y entre pas comme ça. C'est un lieu très protégé, mais vous, vous avez pu y avoir accès.
Adjugé 1,496 milliards, oui. Aux limites de moins 0.
Voilà, nous sommes au 9e étage d'un bâtiment du ministère des Finances. 40 personnes travaillent dans cette agence, les yeux rivés sur les ordinateurs d'une salle de marché.
C'est bon, vous pouvez adjuger.
6 milliards d'euros levés en 4 minutes, c'est efficace.
Et ce jour-là, ce sont des bons du Trésor remboursables à court terme qui sont écoulés sur les marchés.
Et qui achète ces titres de dette ?
Alors, en fait, c'est un petit club de banques qu'on appelle les SVT, les spécialistes en valeur du Trésor. On retrouve dans ce club les principales banques françaises, allemandes ou anglo-saxonnes. Des banques qui revendent ensuite ces titres de dette pour le compte de clients qui souhaitent placer leur argent. Entre 10 et 15 milliards d'euros sont ainsi échangés par jour sur ce marché de la dette. C'est un système à deux étages, hein, résume le directeur général de l'agence France Trésor, Anthony Requin.
C'est comme un marché de gros. J'ai 17 grossistes et ces grossistes vont ensuite revendre aux petits détaillants sur les marchés financiers. Donc ce système, il donne d'un point de vue opérationnel entière satisfaction.
Ouais, entière satisfaction, dit-on, du côté de Bercy. Mais on constate effectivement que les banques se jettent sur la dette un petit peu comme des poissons sur un appât.
Bah oui, parce que elles y voient un intérêt commercial, hein. Les banques veulent absolument détenir des titres de dette dans leur portefeuille. Et on comprend pourquoi, en écoutant l'un de ses représentants qui a tenu à rester anonyme. Ses propos sont lus par Philippe Bardonneau.
L'État français a la palme de l'innovation financière en Europe. Du coup, c'est très important pour nous de montrer à nos investisseurs que nous sommes très proches du Trésor français. Ça nous donne accès à d'autres marchés, c'est une excellente carte de visite.
Une excellente carte de visite, ce qu'on entend en fait derrière ce témoignage, c'est qu'il y a donc un intérêt stratégique pour les banques à acheter de la dette française.
Bah, c'est un moyen finalement de mettre leur nez dans la politique de l'État, décrypte Benjamin Lemoine.
Avoir des bonnes relations avec le Trésor, ça permet de faciliter les relations avec le reste de l'appareil d'État. Il y a une forme de jeu de donnant-donnant, de service rendu. Tenir le marché, c'est en quelque sorte tenir l'État. L'État doit aussi rendre service à ses banques. Il ne doit pas les dégoûter, il doit les ménager dans ce rôle de distributeur de dettes.
L'État ménage donc les banques, on l'entend, hein, d'où l'intérêt pour elles de faire partie de ce club des acheteurs de dettes. Maintenant, Benoît, est-ce qu'on sait ensuite à qui les banques revendent notre dette ?
Bah, précisément, non. Bien sûr, on connaît globalement le pédigré de ceux qui rachètent de la dette, des assurances, des fonds de pension, des banques centrales, des gestionnaires d'actifs. Selon l'agence France Trésor, les deux tiers de la dette seraient détenus par des étrangers, un tiers par des Français.
Oui, mais ça, c'est un profil général. Si on rentre dans le détail, si on veut savoir qui ils sont précisément, ça, c'est pas possible.
Bah, en tout cas, une mission parlementaire a tenté d'en savoir plus, sans succès. Écoutez son co-rapporteur, le député Front de Gauche, Nicolas Sansu.
Bien sûr que c'est un secret d'État. Le gouvernement, les gouvernements antérieurs, l'administration de Bercy nous explique que ce serait pas bon qu'on connaisse les détenteurs finaux parce que on risquerait d'affoler les marchés. Je suis en désaccord total avec ça.
Bon, il est en désaccord, d'accord, on comprend, mais pourquoi donc une telle opacité, Benoît ? Pourquoi est-ce qu'il est impossible de savoir qui achète de la dette ?
Eh bien parce que l'État lui-même ne veut pas qu'on sache. C'est lui qui organise ce secret. Un article du Code du commerce empêche d'identifier les détenteurs finaux de la dette. Une opacité jugée inquiétante par l'économiste Gaël Giraud.
Si vous avez un pool d'investisseurs qui décide collectivement de vendre massivement la dette publique française, la France ne pourra s'endetter de nouveau qu'en promettant un taux d'intérêt nettement supérieur aux acheteurs. Il faut se prémunir contre la possibilité des investisseurs étrangers, qui se fichent pas mal du contrat social et politique français, de saborder la dette publique française en la vendant le jour où ils ne seront pas d'accord avec telle ou telle initiative de politique publique que nous pourrions prendre.
Oui, nous aurions en quelque sorte une épée de Damoclès au-dessus de la tête, nous dit cet économiste. Qu'en dit l'agence France Trésor, elle, de cette éventuelle menace ?
Eh bien que remonter le fil complet de la dette serait une plus grande menace encore, car cela pourrait désavantager la compétitivité de la France. Nous n'avons rien à y gagner, estime en résumé le président du comité stratégique de l'agence France Trésor, Jacques Delarosière.
Je ne vois pas ce que rapporterait à la France et à l'intérêt général de notre pays la connaissance individuelle de chaque investisseur. C'est comme si vous disiez, il est absolument essentiel que la France connaisse le nom de chaque propriétaire de Peugeot dans le monde entier.
C'est pas tout à fait pareil quand même.
C'est un peu pareil, c'est devenu des produits de consommation, hein, les produits financiers.
Des produits de consommation, enfin on ne parle pas non plus de paquets de lessive, là, hein. Tout le monde ne peut pas se les payer, ces nouveaux produits de consommation.
Bah, effectivement, cette dette, elle profite avant tout à une minorité, à ceux qui détiennent un patrimoine financier, alors que tous les contribuables payent avec leurs impôts les intérêts de la dette, 40 milliards d'euros par an.
Ouais, ce qui n'est pas rien. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, Benoît, est-ce qu'on peut faire autrement ? Est-ce qu'il y a un moyen de reprendre le contrôle de notre dette ?
Au Japon par exemple, la dette est détenue à plus de 90% par des investisseurs japonais. En France, Patrick Serin, syndicaliste à la Banque Populaire Caisse d'Épargne, plaide lui pour la mise en place d'un véritable service public bancaire.
Il faut prendre le contrôle des banques. Et une fois qu'on a pris le contrôle des banques, le financement des collectivités publiques, des hôpitaux publics, des organismes de logement social, ça se ferait à taux zéro. Dans la mesure où c'est un système public qui se prête à lui-même pour l'intérêt général, il ne va pas se faire appliquer un taux d'intérêt. Si on dit que la puissance publique, sous contrôle citoyen, reprend la maîtrise de sa monnaie, la création monétaire, la maîtrise de ses banques, à partir de là, effectivement, on pourra établir d'autres règles du jeu.
Oui, d'autres règles du jeu, ça c'est le souhait de ce syndicaliste de Sud, donc. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. D'autant plus que vous nous expliquiez, Benoît, il y a un instant, que tout se jouait en fait désormais au niveau européen.
Oui, c'est à ce niveau-là que le système doit être repensé, estime le chercheur au CNRS Benjamin Lemoine.
Pourquoi pas envisager des banques publiques européennes et non nationales, mais aussi un trésor, c'est-à-dire
un circuit du trésor
qui fonctionnerait à l'échelle européenne et qui permettrait de décider d'allouer certains investissements d'argent dans les secteurs qu'on considère désormais essentiels, comme par exemple le secteur de la transition énergétique, l'environnement, engager des investissements en dehors de la logique des marchés financiers.
Et en fait, poser la question de la dette, ça revient à poser la question de la monnaie. Comment un État qui n'a plus la souveraineté sur sa monnaie peut financer sa dette publique sans dégâts économiques et sociaux?
Ouais, question délicate, quasi tabou, très peu débattue d'ailleurs pour l'instant. Merci Benoît Colombat, en tout cas pour cette enquête. Enquête que vous pouvez réécouter ou retrouver en texte et en vidéo sur franceinter.fr et sur la page Facebook de Secret d'Info. Et puis restez avec nous, puisque dans quelques instants, on va évoquer tout autre chose. Nous allons parler des abus sexuels auxquels se livreraient certains soldats de l'ONU. Side d'extrait du dernier album de Norah Jones, c'est plus jazzy, c'est un peu moins country que ses précédents titres. Norah Jones qui entame d'ailleurs une tournée mondiale qui la conduira à Paris en juillet prochain.
France Inter, Secret d'Info, Jacques Monin.
Alors nous recevons maintenant Célia de la Varenne en duplex de New York. Bonjour.
Bonjour.
Alors pendant 20 ans, vous avez couvert l'actualité de l'ONU pour différents médias et vous avez vous-même participé à 7 missions de l'ONU et vous publiez un livre dans lequel vous faites notamment un constat qui est absolument effarant. Si j'en crois ce que vous dites, toutes les semaines, partout dans le monde, des soldats de l'ONU, donc des casques bleus, commettraient des abus sexuels. Alors qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça ?
D'abord, j'ai été sur place, donc je l'ai vu. Les deux dernières missions, j'étais chargée de faire en sorte que les casques bleus, justement, ne se conduisent pas de façon infernale, notamment en allant dans des endroits où il y avait des gamines qui étaient forcées de se prostituer. Donc, j'ai constaté ce, dès ma première mission, qui était au Cambodge en 92. Donc, ça ne date pas d'hier. Et déjà, à l'époque, j'avais dénoncé ce que je considérais comme aberrant de la part de soldats de casque bleu qui viennent dans un pays pour porter secours à une population qui sort de conflit ou de guerre.
Alors déjà, vous observez ça en 92, mais qu'est-ce qui permet de dire que ça continue aujourd'hui ?
D'abord, certains de mes amis, je me suis fait beaucoup d'amis au cours des 7 missions que j'ai effectuées sous drapeau ONU, qui sont eux qui continuent des missions et qui me disent ce qu'il se passe. Et puis aussi, parce qu'il y a des rapports qui sortent. Alors évidemment, des rapports qui nous parviennent édulcorés, mais il y a toujours des rapports. J'ai des amis qui font partie de cette cellule qui, normalement, effectue des enquêtes internes et qui me disent, mais on le sait, que par exemple au Mali, en RCA, en Haïti, un peu partout dans le monde, des casques bleus régulièrement violent des gamines, des petites filles, des garçons parfois. Tout le monde le sait. Et à l'ONU, c'est pas possible que ça se sache pas. La preuve, c'est que quand ça se sait, on a de cesse de fermer les yeux et surtout de détourner l'attention.
Alors on va en parler justement, hein, de comment on gère ou comment on ne gère pas ces affaires-là. Vous racontez un exemple qui est absolument épouvantable. Ça s'est passé en Bosnie et là vous étiez aux premières loges. Hein. Vous évoquez ces fillettes que vous amenez à la cantine et là elles vous décrivent choses absolument épouvantables.
Elles ne décrivent pas. Sur le coup, elles se cachent sous une table. On les emmène prendre un petit déjeuner. Elles se cachent et on ne comprend pas ce qui se passe. Et on se retourne et on voit arriver deux policiers pakistanais, donc sous drapeau ONU. Et on se doute bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est après seulement qu'elles nous racontent l'histoire. Et oui, l'histoire est épouvantable parce qu'ils les ont loués pour toute la nuit. Ils les ont torturés. Je vais vous passer les détails parce que vraiment, ça donne envie de vomir. Et ces deux Pakistanais ont été exfiltrés. Et je ne saurais jamais par qui, mais ils n'ont jamais été punis. Donc ça, je trouve ça infernal.
Mais si ça se passe toutes les semaines, comme vous le dites, pourquoi est-ce que rien ne bouge? Vous évoquiez il y a un instant l'inaction de l'ONU. Qu'est-ce qui explique ça?
Dans un premier temps, j'ai pensé que c'est parce que les opérations maintien de la paix, en tout cas la personne qui dirige et qui est un Français depuis plus de 20 ans, avait peur que les pays contributeurs de troupes n'en envoient plus si on portait plainte contre leurs ressortissants. Ce qui voulait dire plus ou moins qu'implicitement, quand on envoyait ces gens-là sur les missions, on leur disait, sans leur dire, écoutez, si vous violez une ou deux filles, c'est pas trop grave. Je ne sais pas pourquoi. Je sais qu'il y a une espèce de loi du silence à l'ONU et qu'on ne veut pas ternir ou que quelqu'un ternisse cette image qui est déjà de toute façon bien entachée.
Alors, évoquons une affaire qui est une affaire cette fois-ci française, puisque trois soldats français de la force Sangaris, qui intervenaient en Centrafrique, sont soupçonnés d'avoir violé de jeunes mineurs. Il y a des enquêtes qui ont été ouvertes et vous vous dites que l'ONU volontairement empêcherait la tenue de ces enquêtes en demandant à ses membres de ne pas parler aux enquêteurs.
Alors écoutez, c'est même pas empêcherait, c'est à empêcher. Quand cette histoire a fait surface, je vous rappelle que tout le monde, que ce soit les officiers des droits de l'homme ou les gens de la mission, avait ce dossier depuis un an. Un an. Et que personne, parce qu'ils avaient reçu des informations depuis les hautes sphères de l'ONU, on leur avait intimé l'ordre de ne pas parler. Ce qui est curieux d'ailleurs, c'est que le patron des opérations de maintien de la paix disait à l'époque de toute façon ça ne nous regarde pas, ce sont des soldats français de la force Sangaris, ils ne sont pas sous drapeau ONU.
Mais ça veut dire qu'il y a eu des consignes de ne pas parler.
Ah tout à fait. On a donné des consignes à tous les gens de l'ONU de ne pas parler, mais surtout, et ça c'est le plus grave, de ne pas coopérer, parce qu'il y avait une commission rogatoire que Paris avait envoyée, on a donné des consignes strictes de ne pas coopérer avec cette commission, qui est repartie bredouille. Alors, les questions qui se posent, c'est, est-ce que l'ONU ne voulait pas que, ce faisant, les gens qui venaient pour faire des enquêtes découvrent que les soldats de l'ONU se livraient aussi à des viols. Alors là, c'était, il y en avait beaucoup. Par exemple, la même semaine où on a appris les agissements de la force Sangaris, il y avait une petite fille de 12 ans qui était
partie,
enceinte.
Une partie, on va dire, une petite, infime partie de la force Sangaris.
Oui, c'était 3 ou 4. Hein. Les chiffres ont été largement exagérés, mais encore une fois...
Mais l'ONU se base sur un rapport qu'il a lui-même rédigé, qui minimiserait ses faits en expliquant que finalement il y a eu un certain nombre de faux témoignages, de témoignages qui ont été achetés, qu'une vidéo zoophile qui circulait comme ayant été tournée par des soldats en fait n'aurait pas été tournée en Centrafrique. Donc que tout ça reposait sur très peu de choses.
Attention, hein, il faut prendre ça avec beaucoup de précautions parce que ça n'enlève pas le fait qu'il y a des soldats qui violent ou des gens de l'ONU qui violent. Mais c'est tout à fait vrai. Moi, j'ai constaté souvent que des gamines accusaient les gens de l'ONU de viol. Et quelquefois, ce n'était pas vrai. C'est parce que les parents sont pauvres et ils se disent on va pouvoir tirer de l'argent des casques bleus.
On va exercer une forme de chantage.
Oui, mais ce n'est même pas chantage parce qu'ils sont tellement pauvres. Ils vivent avec 50 cents par jour. Imaginez, ils se disent, bon, après tout, ils ont beaucoup d'argent qu'ils montrent avec, et qu'ils dépensent avec ostentation, donc pourquoi pas.
Mais le même rapport de l'ONU, pardon, hein, Célia de Navarraine, mais le même rapport de l'ONU explique qu'il y a quand même 20% de ces témoignages qui peuvent être crédibles.
Tout à fait, tout à fait.
Or, ça ne donne pas lieu à poursuite.
Ça ne donnera jamais lieu à poursuite, parce que il faut protéger ses intérêts avant les intérêts des pays, des gens, des pays dans lesquels on va.
Bon, c'est très peu encourageant tout ce que vous nous expliquez, mais après tout, c'est la réalité et on est aussi là pour la décrire. Merci Célia de Navarraine. Et pour ceux qui voudraient prolonger le sujet, je précise quand même que votre livre s'intitule « Les étoiles avaient déserté le ciel » et qu'il est édité chez Ballant. C'est la fin de cette émission. Merci à Léa Dupuy-Yannequin qui m'a aidé à la préparer. Merci à notre réalisateur Christophe Imbert. À la technique, il y avait Kevin Pelot et Pierre-Yves de Rolin. La programmation musicale, elle, était signée Jean-Baptiste Audibert. Alors après le flash, n'oubliez pas, vous retrouvez Denis Chessou pour CO2 Mon Amour. Excellent week-end à tous.